1er mars 2005, dans le quartier de Rives à Genève. Il est 14h et les employés de la société IRR sont inquiets. Leur patron, le banquier français Edouard Stern, est attendu depuis le matin et l'homme n'a pas pour habitude d'être en retard. Pire, il a même raté un rendez-vous important avec William Browder, fondateur de la société d'investissement Hermitage Capital Management. Les employés se concertent, une décision est finalement prise. Il faut se rendre au domicile du banquier. Après tout, l'appartement de la rue Adrien Lachenal est voisin de l'entreprise et la femme de ménage possède un double des clés. Ni une ni deux, le petit groupe parcourt le chemin les menant au sommet de l'immeuble. Avant d'ouvrir la porte, il constate que l'alarme de sécurité n'est pas enclenchée. Edouard Stern doit être à l'intérieur. « Ouvrez !» donne l'un des employés. Pas un bruit, pas un signe de vie. Il décide alors d'entrer. À l'intérieur, il dépasse le petit hall et s'engage dans le couloir en direction de la chambre. Il s'arrête, pousse la porte. Là, sur le sol, un corps gît, immobile. Plus incroyable encore, une combinaison couleur chair le recouvre de la tête aux pieds. S'agit-il du banquier Edouard Stern ? Impossible à dire. Mais il faut se rendre à l'évidence, l'individu est décédé. Bienvenue, je suis Frédéric Thomasset et vous écoutez Sur les traces du crime, le podcast dédié aux grandes affaires romandes. Un podcast dans lequel le journaliste, en charge du dossier au moment des faits, revient là où tout s'est joué et fait parler ses souvenirs. Dans notre épisode aujourd'hui, l'affaire Edouard Stern. Une histoire sombre, un fait divers pas tout à fait comme les autres qui gravitent dans les hautes sphères de la société. Celle de l'argent, celle des hommes bien nés, celle des gens bien connectés. Un monde opaque, parfois impénétrable, qui rend la mission du journaliste complexe. En 2005, c'est Alain Jourdan, enquêteur à la Tribune de Genève, qui s'y est frotté.
Alors nous sommes au 17 rue Adrien Lachenal. Nous sommes devant l'immeuble qui hébergeait les bureaux des sociétés d'Edouard Stern et où se trouvait également son appartement. Et c'est là qu'on a découvert son corps. Alors les informations ont fuité par morceaux, mais on a très vite su que la scène de crime était assez spéciale. Des policiers qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui étaient là à ce moment-là, qui en ont vu des vertes et des pas mûres, confieront plus tard que c'était une scène assez surréaliste. D'ailleurs, ils n'ont même pas l'impression d'être sur une scène de crime parce qu'on a l'impression que c'est un mannequin. Vous voyez, c'est une couleur chair, comme ces mannequins qu'on voit exposés dans les boutiques. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a peu de sang. Parce que Edouard Stern a été tué de 4 projectiles tirés à bout portant, 2 dans la tête et 2 dans la poitrine. Mais le latex s'est immédiatement refermé après l'entrée des projectiles, ce qui fait que le sang n'a pas pu en fait sortir. Et c'est un des associés les plus proches, même le fondé de pouvoir des sociétés d'investissement d'Edouard Stern, qui va faire l'identification en disant « mais oui, mais c'est bien lui ». Alors évidemment, la première chose qu'on fait quand on est un journaliste d'investigation ou un fait diversier, on va faire une enquête de proximité, un peu comme un policier. C'est comme ça qu'on a pu avoir des informations sur la femme de ménage et reconstituer quand même pas mal de choses sur l'environnement et sur la vie de ce banquier à Genève, et qui était pas n'importe quel banquier, puisque très vite, c'est ce qui a suscité aussi un énorme intérêt en France. Ce banquier, eh bien, c'était l'un des amis les plus proches de Nicolas Sarkozy, qui était à ce moment-là en pleine ascension politique et qui se préparait pour les élections présidentielles de 2007.
Est-ce que cet homme était une figure publique ? Vous-même, en aviez-vous déjà entendu parler ?
Non, Edouard Stern n'était pas une figure publique. On ignorait même qu'il était à Genève, pour tout vous dire. C'est une figure du milieu de la finance. Il faisait partie quand même d'une élite financière. Il était quand même parmi les 40 plus grandes fortunes françaises, des vieilles familles qui étaient dans la finance depuis très longtemps et très discrètes. Donc c'est pas quelqu'un qui faisait parler de lui.
De sources sûres, nous pouvons confirmer ce soir que le corps du banquier Edward Stern, assassiné de plusieurs balles, a bien été retrouvé revêtu d'une combinaison en latex. D'autres détails très scabreux ont été constatés qui pourraient conduire à penser à des pratiques ou à un cérémonial sadomasochiste. Mais pour les enquêteurs, il pourrait aussi s'agir d'une mise en scène masquant un crime crapuleux ou alors une vengeance financière.
Avec ma collègue Valérie Duby, très vite, nous avons su que les policiers tenaient une piste très sérieuse. Alors c'était d'ailleurs assez marrant parce que en même temps, on avait tout un tas de gens qui venaient nous voir en nous expliquant qu'ils avaient des informations sur cette affaire. Et ça allait très loin puisque on a même eu le cas de quelqu'un qui était pourtant tout réputé être un bon informateur de plusieurs autres collègues dans d'autres affaires, qui est venu nous expliquer que c'était une mise en scène, que c'était la mafia russe qui avait assassiné Edward Stern, qui avait un commando de 3 hommes qui était monté en rappel le long du mur avec une corde pendant la nuit, qui l'avait endormi. Enfin, un scénario de cinéma totalement surréaliste.
Entre le moment de la découverte du corps et les premières pistes et les premiers éléments concrets sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, combien de temps s'est déroulé et quelles pistes commencent à être privilégiées ?
Très vite, la police va interpeller, en tout cas convoquer la maîtresse d'Edward Stern, qui s'appelle Cécile B. Elle sera convoquée pour un interrogatoire et très vite confondue, et donc déférée devant le parquet et puis transférée à Chandelon en attendant son procès.
La police n'a donc pas tardé. Très vite, la caméra de surveillance du parking de l'immeuble de la rue Lachenal met les enquêteurs sur la piste d'un suspect. Ou plutôt d'une suspecte. À 21h15 le jour du meurtre, une femme blonde fait en effet son apparition sur les images de vidéosurveillance. On la voit s'installer dans une mini immatriculée dans le canton de Vaud, avant de quitter les lieux. Il s'agit de la maîtresse du banquier, Cécile B. Dans la voiture ce soir-là, elle roule en direction de son domicile de Clarence près de Montreux. En chemin, elle contacte son ami Xavier avec qui elle vit pour lui expliquer qu'elle a retrouvé Edward Stern mort dans son appartement. En réponse, ce dernier s'empresse de lui prendre un billet de train pour Rome. De là, il est prévu qu'elle s'envole pour l'Australie. Avant de prendre son train, elle se rend au bord du lac pour y jeter le contenu de son sac. À l'intérieur, une arme de poing et quelques douilles. 4 plus précisément, comme le nombre de coups de feu tirés dans l'appartement du banquier. Elle prend ensuite le chemin de la gare, saute dans le train, avant de se rendre compte qu'elle s'est trompée de quai. Le régional la conduit à Villeneuve, elle descend. Désespérée, elle monte dans un taxi avec le mince espoir de rattraper son train. Il n'en sera rien. Le chauffeur poursuivra finalement la route jusqu'à l'aéroport de Milan. Il est alors 4h du matin, et Cécile B est au bord de la crise de nerfs. Quelques heures plus tard, elle s'envolera pour l'Australie. C'est depuis Sydney qu'elle feindra d'apprendre la mort de son amant lors d'un échange téléphonique avec la belle-sœur du banquier. Elle rentre d'urgence en Suisse pour pouvoir, dit-elle, porter le deuil. À partir de là, son interpellation n'est plus qu'une question de temps. La police l'entend une première fois, elle nie toute implication. Mais elle passe finalement aux aveux quelques jours plus tard. Peu avant, son ami Xavier avait livré un témoignage clé. Selon ses dires, Cécile B lui avait confié qu'Edward Stern avait été tué par balle. Le latex s'étant refermé sur les blessures, ce détail appartenait au seul meurtrier. Il aura fallu 15 jours à la justice genevoise pour le mettre sous les verrous. Ne reste plus qu'à régler la question du mobile, et le juge Michel-Alexandre Graber, en charge de l'investigation, a déjà sa petite idée.
Il s'agit d'une femme avec laquelle la victime entretenait une relation intime et suivie depuis plusieurs années.
Crime à caractère sexuel ?
Non, je ne privilégie pas cette hypothèse. Les mobiles peuvent être de nature financière. Elle était en procès depuis peu avec la victime pour de tels motifs. Ils peuvent également relever de problèmes de nature personnelle.
Dès que le parquet a annoncé qu'un suspect avait été interpellé, Dans les heures qui ont suivi, bon, tous les médias avaient le nom de Cécile B. Je crois me souvenir que Paris Match avait même les photos. Enfin, c'est allé très vite après. Hein.
Cécile B résidait dans le canton de Vaud à l'époque. Est-ce que vous-même vous êtes rendu sur place? Et quels sont les premiers éléments qu'on récolte à propos de cette personne?
Alors, on s'est rendu effectivement dans le canton de Vaud, sur place, dans l'immeuble où elle résidait avec son mari à l'époque. Il y avait un mystère justement sur son statut. Elle disait qu'elle n'était pas mariée et nous, on avait découvert des documents où elle apparaissait avec un nom de mariée. Et donc, on a poussé nos investigations jusqu'à nous rendre en France, à Nanteuil-le-Haudouin, dans la banlieue parisienne, où elle avait également une maison. Et là, ça a été une partie de l'enquête qui a été assez fameuse pour nous et remplie d'anecdotes parce qu'on est arrivé dans un tout petit village et dans une toute petite rue où elle avait donc une maison. Et donc, on a fait toute la rue en frappant à toutes les portes pour faire donc notre reportage de proximité. Et là, on a eu des personnes âgées qui vivaient essentiellement là, qui à chaque fois nous racontaient avoir vu de belles et jeunes femmes arriver le soir, de grosses limousines également amenées des hommes. Certaines limousines, d'ailleurs, nous expliquaient-elles, avaient la cocarde tricolore, qui était sans doute la voiture de députés ou de sénateurs, et qu'il y avait des fêtes très régulièrement dans cette maison, et qu'elle soupçonnait qu'il s'y jouait des parties fines. On a dû passer 2 ou 3 jours là-bas, et puis il se trouve qu'on s'est présenté donc à la mairie de Nanteuil-le-Haudouin, parce qu'on voulait essayer d'avoir des informations sur l'état civil de Cécile B. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'on se trouvait à Nanteuil-le-Haudouin la veille de la venue du juge Grabert, qui devait venir avec sa greffière pour saisir des documents et faire une perquisition à Nanteuil-le-Haudouin. Et quand on s'est présenté à la mairie, on a dit, ben voilà, on vient, on est des enquêteurs de la tribune de Genève. Et là, je promets qu'on n'a absolument pas triché, on n'a pas essayé de jouer. Mais l'employé de mairie a compris le tribunal de Genève. Et donc, elle nous dit, bah, écoutez, tout est prêt, vous pouvez monter. On ne renonce pas à un tel accueil. Et donc, on s'est retrouvé dans un salon de la mairie avec tous les actes notariés concernant Cécile B, son mari, ses propriétés, etc. Et donc là, on a eu des réponses à beaucoup de questions.
Mais finalement, quel déroulé de cette affaire peut-on tirer du profil que vous avez réussi à définir?
Alors ça, c'est un des points extrêmement sensibles et litigieux de l'affaire, en tout cas pour ce qui nous a concernés, puisque évidemment, à partir du moment où on connaît l'identité de la présumée meurtrière à l'époque, on s'attache à vérifier qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Donc alors, on découvre que c'est une femme très libre, qui a des pratiques sexuelles très libérées, sadomasochistes, etc. Mais certains témoignages tendent à penser qu'elle a pu faire un peu commerce de son corps, comme escort girl ou en se vendant certains week-ends. Et ça, il y a notamment son père qui le dit. Ça, très vite, ça sera un sujet de tension avec ses avocats parce que il est hors de question pour eux qu'elle soit associée au terme d'escort girl. Alors, on le comprendra par la suite, c'est aussi lié à sa défense puisque elle va plaider une affaire passionnelle et que si vous mettez en avant, si vous voulez, cette dimension d'escort girl, ça peut changer la nature de l'affaire.
Vous-même, en tant que journaliste, ce type d'information vous fait plutôt pencher pour quelle thèse à ce moment-là par rapport à cette affaire?
À partir du moment où on identifie sa meurtrière, il y a quand même la question du mobile qui se pose. Et très vite, elle en a fourni une clé qui sera centrale dans toute l'affaire. Elle expliquera que le déclenchement de cette violence qui l'a conduite à tuer son amant, c'était $1 million, le fameux $1 million, c'est-à-dire une dot qu'Edward Stern lui avait promis et donné pour qu'elle puisse avoir une rente qui lui permette de vivre. Et après avoir versé cette somme, il l'avait finalement fait séquestrer, suscitant l'ire de sa maîtresse.
Que s'est-il vraiment passé ce 28 février 2005 dans l'appartement de la rue Lachenal? Cécile B., seule protagoniste encore en vie de la scène, raconte ainsi son histoire. Il est 19h30 quand elle arrive au domicile du banquier. Ce dernier la rejoint quelques minutes plus tard et engage directement une conversation portant sur les armes à feu. Afin d'assurer sa protection, l'homme en détient plusieurs cachés dans son dressing. Il souhaite les montrer à Cécile B, Il en charge même quelques-unes devant elle. Le couple passe ensuite dans la pièce d'à côté. Une dispute explose. Il est question de ce million de dollars qu'Edward Stern a offert à sa maîtresse avant de se raviser. Alors que le ton monte, le banquier propose à Cécile B de faire l'amour. Elle accepte. Il enfile sa combinaison de latex selon un rite liant les deux amants. Edward s'assoit ensuite sur une chaise. Sa maîtresse lui fait face, debout, un godemiché à la main. C'est au cours de ce jeu érotique que tout va basculer. Selon les dires de Cécile B, le banquier aurait lâché une phrase, élément déclencheur de la folie à venir. 1 million, c'est cher payé pour une pute. Face au mépris affiché, Cécile B explose. Sans rien dire, elle se dirige alors vers le dressing. Elle se saisit d'une arme chargée, puis revient dans la pièce où se trouve le banquier. Elle le contourne pour qu'il ne puisse la voir, se plante à nouveau devant lui, pointe l'arme en direction de la tête et tire. Edward Stern se lève brusquement, tourne sur lui-même avant de s'effondrer. Cécile B tire 2 balles supplémentaires dans son corps, puis une nouvelle dans la tête. La femme expliquera cette souvenue de partie de chasse en Afrique et de la nécessité d'abréger les souffrances des bêtes blessées. Il est alors 21h15, Edward Stern est mort et sa maîtresse quitte l'appartement, emportant avec elle les douilles et l'arme à feu. En juin 2009, alors que s'ouvre le procès de l'affaire Stern à Genève, ce récit d'une rare violence sera toujours au cœur des débats. Folie passagère ou acte calculé, la question est ouverte. Alain Jourdan, lui, est encore sur l'affaire, comme chroniqueur judiciaire cette fois. Alain Jourdan, nous nous retrouvons devant le palais de justice de Genève. Quel souvenir vous évoque cet endroit concernant l'affaire Stern ?
D'abord, c'est toujours un moment de très forte émotion, puisque c'était la première confrontation entre la meurtrière d'Edward Stern et la famille d'Edward Stern, et notamment de son épouse et de ses proches. Et puis, il y a toujours ce moment très fort qui est la découverte de l'accusé, parce que Cécile B, on ne la connaît qu'à travers des photos, souvent anciennes, et on l'a jamais vue en vrai. Et là, c'est son arrivée dans le box des accusés, avec tous les regards qui sont tournés vers cette femme.
Et quelle est votre impression de cette femme lorsque vous la voyez pour la première fois ?
Eh bien, comme souvent dans les affaires criminelles, l'assassin paraît toujours beaucoup plus petit comparé de l'horreur du crime qu'il a commis. Là, avec Cécile B, vous avez décrit presque une croqueuse d'homme. Et puis finalement, on découvre une femme, elle est très tirée, creusée, usée, assez quelconque. On la voit pas comme une maîtresse assassine, on la voit comme une pauvre bougresse voûtée dans le box des accusés.
Finalement, quelles stratégies vont s'opposer au cours de ce procès ?
En réalité, il y avait eu une sorte d'entente entre les avocats de Cécile B et les avocats de la famille Stern pour finalement négocier une sorte de déballage à minima de la vie privée, de tout l'environnement de cette affaire. Ce qui restait à déterminer, c'était la part du passionnel et de l'attrait pour l'argent. Comment on pouvait doser ça ? Cécile B disait qu'elle avait été blessée dans son amour propre parce que Edward Stern l'avait accusée d'être uniquement appâtée par le gain et par ce million de dollars. Elle et ses avocats disaient en fin de compte que c'était une femme qui avait été torturée psychologiquement par Edward Stern, qu'elle était en grande souffrance.
Sur cette relation, justement, est-ce qu'on connaît les circonstances de la rencontre entre ces deux personnages ? Est-ce qu'on les avait avant ? Est-ce qu'on les découvre au procès ?
La justice, elle va remonter à la genèse de la relation. La genèse de la relation, c'est que Cécile B a été présentée à Edward Stern à Paris lors d'une soirée justement chez un galeriste qui font partie de ces milieux un peu branchés où se mêlent amour de l'art et partie fine. Pour montrer que c'était une vraie relation passionnelle, fusionnelle, la défense de Cécile B va mettre en avant qu'il y avait eu dans l'air un projet de mariage, qu'il lui avait promis cet argent pour qu'elle ait justement une forme d'indépendance et qu'elle puisse vivre confortablement, et que c'était bien finalement la preuve que cette relation était une relation d'amour puisqu'il veillait à la protéger. On nous a lu des échanges d'SMS entre eux. On a l'impression que ce sont deux adolescents de 12 ans qui se disputent, se chamaillent. Enfin, Le niveau de ces échanges en dit long sur le côté totalement paumé qu'ils pouvaient avoir les deux dans cette descente aux enfers.
On décrit aussi Cécile B. comme quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui aurait été agressé sexuellement. Est-ce que ces éléments sortent aussi au moment du procès et qu'en font les parties ?
On a remonté son enfance, effectivement, c'était pas très réjouissant. Elle avait une mère qui était à moitié folle, qui un jour lui avait mis la tête dans le four. Son père aurait abusé d'elle. Les relations aussi bien avec sa mère que son père ont apparu très, très compliquées dès le départ.
J'imagine qu'en tant que journaliste, on attend avec impatience le témoignage clé, en tout cas le témoignage de Cécile B. Quelle est le teneur de son propos ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Est-ce qu'elle explique son geste ?
Oui, bah ça c'est un des points centrales du procès, puisque tirer quatre fois à bout portant, ça veut dire qu'on veut. Il y a une détermination, on n'est pas dans l'accident. Et donc là, elle explique qu'elle a paniqué et que c'est un coup de colère, une pulsion qu'elle a eue quand il l'a traitée de pute. Et que là, pour elle, ça brisait son amour, qu'elle se sentait trahie. Les avocats de la famille Stern ont quand même essayé de glisser l'idée que quand elle est arrivée dans l'appartement ce soir-là, en réalité, elle est arrivée avec l'intention de le tuer.
Est-ce que vous pouvez parler un peu du moment du verdict et de l'ambiance qui régnait à ce moment-là dans le tribunal ?
C'est pas un procès qui a suscité des réactions d'émotion ou de passion. Le verdict est plutôt indulgent puisqu'elle s'en est tirée avec une peine de 8 ans de prison. Elle en a effectué 5. Il fallait un quantum de la peine qui soit juste pour tout le monde et je pense que les parties sont tombées d'accord. De toute façon, la famille avait prévenu par avance que ce qui lui importait, c'était que la vérité éclate dans le procès et que peu importe le quantum de la peine, que de toute façon ça ne rendrait pas Edward Stern et qu'il n'y avait pas de velléité de vengeance, mais plus des velléités de rétablir l'image d'Edward Stern qui avait été malmenée toutes ces dernières années à travers les détails scabreux mis sur la place publique concernant sa vie, concernant cette relation avec cette femme un peu paumée.
Les juges ont rendu une décision que personne sans aucun doute n'attaquera.
Elle m'a dit d'abord que le jury avait fixé une peine qui lui paraissait tout à fait juste et qui en plus ne lui importait que de manière secondaire tant il était important pour elle que l'amour qu'elle a porté à Edward Stern soit reconnu.
À la sortie du procès, les prises de position des avocats des deux parties viennent mettre un point final à l'affaire Stern. Le verdict ne sera pas contesté, Cécile B purgera sa peine, et la famille du banquier pourra pleurer sa perte désormais loin des projecteurs. Après 2 livres sur le sujet, Alain Jourdan a lui aussi tourné la page de ce drame qui aura marqué les années 2000 à Genève. Vous avez écouté Sur les traces du crime, une émission de la Tribune de Genève et de 24 heures. Retrouvez d'autres épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées au podcast.